Le Cluster Montagne est le réseau des acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre sixième podcast de notre série des Clusters Montagne Insights. Aujourd'hui, je vous propose de parler de prospective. Car oui, le Cluster Montagne anime un club prospective montagne pour contribuer à une réflexion collective sur le futur de la filière et du tourisme. Fruit des travaux de ce club, un cahier de tendance montagne est édité chaque année depuis 2019 par le Cluster Montagne en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies. Nous allons passer un petit moment aujourd'hui avec Nicolas Savelli, consultant senior au sein de la structure Stratorial, et de Lionel Gruffat, nouveau directeur du pôle tourisme du Crédit Agricole des Savoies. Bonne écoute à tous. Bonjour Nicolas, bonjour Lionel.
Bonjour Elodie.
Bonjour Elodie.
Alors Nicolas, tu as contribué au cahier de tendance Montagne #5, mais surtout tu es le responsable du pôle mode de gestion au sein de Stratorial. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Oui, alors Stratorial est un cabinet de conseil en gestion des finances locales. Le pôle mode de gestion est le pôle qui traite notamment des choix en matière de politique publique, d'internaliser ou d'externaliser la gestion à une entreprise publique locale, à une régie, faire la comparaison de ces modes de gestion. Et donc, cela nécessite d'avoir la vision globale entre les finances des collectivités et également les finances des entreprises potentiellement délégataires de services publics.
Très bien, merci beaucoup Nicolas. Lionel, de ton côté, finalement, nous faisons connaissance avec toi. Puisque tu viens de prendre la direction du pôle tourisme, est-ce que tu pourrais à ton tour aussi te présenter, s'il te plaît ?
Merci Elodie. Oui, Lionel Gruffat, j'ai 38 ans. Ça fait maintenant 13 ans que j'ai choisi de travailler au Crédit Agricole des Savoies, cette banque coopérative avec des centres de décision basée entre Annecy et Chambéry, des agences aux quatre coins de nos montagnes. Et cette entreprise a à la fois des valeurs de réactivité et de suivi de ses clients, mais aussi des valeurs sociales, sociétales, qui importaient beaucoup pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi cette banque locale. Concernant mon équipe, le pôle tourisme, c'est une petite dizaine de personnes qui travaillent sur les deux départements savoyards et dont la mission est d'accompagner tous les acteurs du tourisme, je dirais d'une certaine taille. On se spécialise sur les entreprises de plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit des acteurs des remontées mécaniques, des hébergeurs ou des restaurateurs. Et en parallèle du suivi sur la sphère bancaire et assurantielle, on travaille aussi à la réflexion stratégique de notre banque et aussi à la constitution de partenariats comme celui qu'on travaille depuis plusieurs années avec le Cluster Montagne.
Merci beaucoup Lionel. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de la prospective. Nicolas, dans ta contribution, tu abordes l'immobilier finalement comme un jackpot, mais également aussi comme une vulnérabilité pour les collectivités territoriales en montagne. Est-ce que tu pourrais dire qu'il existe une corrélation entre les produits de fonctionnement des collectivités et les chiffres d'affaires des domaines skiables ?
Alors oui, cette corrélation était intuitivement connue de l'ensemble des acteurs et des décideurs du milieu de la montagne. Nous avons essayé de la chiffrer et effectivement, mathématiquement, la corrélation entre les produits de fonctionnement des collectivités territoriales et le chiffre d'affaires des délégataires de remontées mécaniques est de l'ordre de 85%, c'est-à-dire une corrélation très marquée, d'où la conclusion qu'il y a finalement une source commune entre les deux, c'est-à-dire celle qu'est l'immobilier, parce que l'immobilier, en tout cas la consommation d'espace foncier, génère en France et dans le système fiscal français les impôts touchés par les collectivités. Ces impôts représentent 50%, voire jusqu'à 70% des ressources des collectivités support de stations de montagne. Et en même temps, c'est parfaitement démontré, l'immobilier et donc le nombre de lits commerciaux déterminent en grande partie les nuitées transformées par les exploitants en journée skieur et donc en chiffre d'affaires.
Très bien. Alors, dans le cinquième opus du cahier de tendance montagne, on parle de cette réglementation, mais aussi de la transition des territoires de montagne. Du coup, Lionel, est-ce que tu pourrais nous présenter le cahier de tendance montagne 5, s'il te plaît ?
Oui, Elodie, nous avons fait le choix cette année de concevoir un cahier augmenté avec l'intégration de contenus digitaux. En bref, l'édition 5, c'est 116 pages avec 5 tendances que sont la déraison et sentiment, objectiver la prise de décision collective, Tendance numéro 2, sois jeune et éclaire-nous. Tendance numéro 3, le modèle d'affaires, affaires sensibles. Tendance numéro 4, SimCity, les chantiers de la transition. Et la dernière, le tout tourisme, une nouvelle niche en montagne.
Et effectivement, cette cinquième tendance, très intéressante finalement, puisque l'intégration de nos animaux de compagnie est de plus en plus importante au sein des séjours en montagne. Finalement, ces cinq tendances rassemblent combien d'experts, Lionel ?
Eh bien, Elodie, c'est une vingtaine d'experts français qui ont partagé leur vision dans cette édition afin de confronter des points de vue et se permettre d'être audacieux. Parlant des audacieux, une place toute particulière leur a été attribuée cette année, avec une partie dédiée et surtout à découvrir une vidéo de chacun avec l'aide de QR codes intégrés dans le document.
Mais il me semble, Lionel, qu'il y a une autre nouveauté en 2023.
Et oui, Elodie, la seconde nouveauté 2023 est la mise en ligne du site internet dédié à la prospective, où on retrouve les différentes contributions des éditions précédentes du cahier Tendance Montagne. Et le site, c'est le Tendance au pluriel. Montagne.com.
Parfait, merci beaucoup pour ce petit rappel. Alors Nicolas, tu partages également dans le cahier de tendance montagne que taxer l'immobilier et la consommation d'espaces fonciers est en France finalement l'un des moyens historiques de récolter des ressources pour la sphère publique. Et tu apportes la nuance que c'est plus encore que d'autres pays concurrents en matière de tourisme de montagne. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager ?
Oui, alors ce n'est pas que lié au tourisme de montagne. D'ailleurs, l'approche de la fiscalité liée à l'immobilier est globale par nation. Et en Europe, seuls les Grecs taxent plus l'immobilier que la France. Tous les autres pays ont une taxation inférieure. Alors la taxation de l'immobilier, c'est beaucoup de choses. Ce sont des impôts pour les collectivités locales, mais c'est aussi, par exemple, l'impôt sur la fortune immobilière pour les grandes richesses, avec une spécialisation d'ailleurs de cet impôt, passant de la fortune de manière générale à la fortune immobilière. Alors ça trouve ses ressources dans la culture après la Révolution, mais aujourd'hui, finalement, l'immobilier, c'est le lien entre le modèle économique de la collectivité territoriale, des collectivités territoriales, et celui des exploitants de remontées mécaniques, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les derniers impôts liés directement à la production, comme la CVAE, ont été récemment supprimés, sont en cours en fait de suppression totale. Donc le dernier impôt touché par les collectivités locales lié directement à l'activité économique est en cours de suppression. Et donc aujourd'hui, la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, par exemple, montre bien que dès lors que l'on a besoin de ressources, quel qu'en soit le générateur, on vient taxer cette propriété foncière parce que c'est elle la principale ressource des collectivités.
Merci Nicolas pour ce premier élément, mais il me semble que tu as aussi un autre exemple à nous partager en France cette fois.
Oui, effectivement, c'est un exemple portant sur la richesse d'une collectivité territoriale selon le nombre de lits commerciaux qu'elle possède sur son territoire. Alors, la montagne est diverse et l'idée est ici de comparer une station support de domaine skiable avec une station touristique estivale comme Vallon-Pont-d'Arc, puisque c'est une commune qui supporte sur son territoire quasiment 25 000 lits commerciaux, soit une très grande station française de ski et dont le budget est environ 6 à 7 fois inférieur à une commune qui a le même nombre de lits commerciaux sur son territoire. Simplement parce que ces lits commerciaux sont liés à des mobil-homes, essentiellement, dans des campings 4 étoiles et 5 étoiles, et que donc, il n'y a que très peu de taxes sur le foncier bâti ou de cotisations foncières des entreprises, principaux impôts touchés par les collectivités, et le restant de l'économie, qui est une économie liée au tourisme sportif de nature, économie qui pourrait être celle de demain pour les territoires de montagne lorsque l'on parle de bascule vers l'été, notamment, et les autres saisons que l'hiver plus généralement, eh bien cette économie est liée aux canoës et kayaks, et donc des entreprises comme des locations de canoës consomment très peu d'espace foncier et l'activité qui se déroule sur la rivière ne rapporte donc pas en termes d'impôts aux collectivités locales traversées par la rivière Ardèche.
Très bien, merci beaucoup pour ce partage d'informations. Lionel, je me retourne vers toi. Est-ce que ce défi finalement de l'immobilier slash habitat et également de la fiscalité auquel vos clients, vos partenaires sont confrontés, a-t-il eu un impact sur vos métiers et sur la filière bancaire ?
Rebondir sur ce que disait Nicolas, la fiscalité immobilière, c'est effectivement le premier poste de recette des collectivités locales. Je mets de côté les dotations qui sont à géométrie variable et qui varient selon les collectivités.
Mais qui sont très faibles en station de montagne, moins de 10% généralement, alors que c'est l'inverse, plus de 80% dans des communes de même taille qui n'ont pas de station sur leur territoire.
Donc les collectivités, elles ont dû augmenter ces taxes pour pouvoir faire face ou alors réduire à leur budget de fonctionnement, donc compresser un peu leurs charges, ce qu'elles ont très bien fait pendant le Covid, ou différer certains investissements. C'est ce qu'on observe, nous, avec la conjoncture de hausse des taux, qui a un impact sur tous les agents économiques, les acteurs du monde du tourisme, les entreprises au sens large, elles aussi sont impactées par cette inflation qu'on a connue dans les derniers mois. Et certaines d'entre elles ont réussi, avec plus ou moins de succès selon les filières, à faire suivre cette inflation dans leur prix de vente. C'est ce qu'on constate avec la hausse des tarifs journée skieur, de la hausse des frais et des nuitées au niveau de l'hébergement. Ce qui fait que les acteurs du monde du tourisme sont impactés en ricochet sur ces hausses, suite à ces hausses à la fois fiscales et inflationnistes sur les intrants, mais arrivent à en partie le répercuter aux particuliers. L'autre point qui a impacté l'activité bancaire, et on le voit tous pour l'habitat, nos maisons, et la capacité qu'on a à se loger en 2023 par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a deux ans, c'est simple, sur un prêt de 200 000 euros, entre un 2% et un 5%, c'est 300 euros par mois d'écart. Donc 300 euros par mois, vu qu'aujourd'hui le marché de l'immobilier se tient plutôt bien en Savoie, il n'y a pas de baisse rapide des prix, mais il y a un attentisme, puisque les vendeurs, pour l'instant, n'ont pas ouvert la brèche pour avoir des baisses, et les acheteurs se retrouvent avec ces 300 euros auxquels ils cherchent à faire face, avec de l'apport complémentaire, avec des solutions diverses familiales. Ce qui fait que pour nous, banque locale, leader sur l'habitat en Savoie, avec 40% de part de marché, on a forcément une répercussion de cette accalmie au niveau du nombre de crédits qu'on nous a demandé cette année, avec une baisse de 25% à peu près à fin octobre.
D'accord, donc c'est quand même significatif comme chiffre.
Tout à fait, on voit ce petit coup d'arrêt quand même sur ce marché, mais il ne faut pas oublier que l'année 2022 était une année record. Donc on reste dans des départements qui sont dynamiques. Et pour faire face à ces problématiques que rencontrent nos clients en particulier, on a mis en place et on est en train de développer une équipe dédiée à la rénovation aussi de nos habitats pour des raisons à la fois économiques où les clients qui ont vu l'inflation des prix de l'énergie augmenter, ils ont besoin d'avoir un bâtiment plus économe pour être mieux aussi chez eux. On voit bien aussi cet été qu'avec les températures qu'on a, c'est agréable d'être dans une maison qui est bien isolée, mais aussi pour des raisons environnementales bien sûr, puisque ces passoires énergétiques, on en parle souvent en montagne, mais c'est vrai aussi pour les maisons à titre individuel, elles pèsent sur l'empreinte carbone de notre territoire.
Et le ralentissement du nombre de transactions immobilières a également des effets par ricochet sur les finances des collectivités, puisque celles-ci touchent notamment une partie des frais de notaire, que l'on appelle les droits de mutation. Et donc le ralentissement produit par ricochet et sur les années à venir, une baisse de ces droits de mutation, notamment qui représentent pour les départements, tout particulièrement, des sommes extrêmement conséquentes, venant par ailleurs percuter l'inflation de leurs charges, puisque les collectivités ont des structures à charge fixe et des recettes variables, dont les recettes liées à l'exploitation des domaines comme la taxe loi montagne ou les redevances, mais aussi des recettes fiscales comme les droits de mutation ou les taxes d'aménagement pour les constructions.
Très bien, merci beaucoup Nicolas pour cette précision. Alors, depuis tout à l'heure, on aborde effectivement l'immobilier, l'habitat au sens large. Est-ce que la problématique des lits froids, des lits chauds, hein, on la connaît, on en entend parler de plus en plus effectivement dans les médias. Est-ce que finalement, on peut indiquer que la fiscalité est l'un des principaux freins à une optimisation de cette gestion immobilière ?
Alors, effectivement, au-delà d'être jusqu'à présent un véritable jackpot que se partagent l'État et différentes strates de collectivités territoriales, parfois d'ailleurs, comme c'est le cas avec la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des effets concurrents, selon les choix des agents économiques que Lionel évoquait, c'est d'une certaine manière l'un des principaux freins, simplement parce qu'aujourd'hui, cette fiscalité permet d'avoir des avantages lorsque l'on construit du neuf essentiellement, pas nécessairement lorsque l'on rénove. Et par ailleurs, pour les collectivités, il n'y a pas de gain fiscal en termes de ressources à encourager aujourd'hui la rénovation, puisque ce n'est que la consommation du stock de foncier qui a permis la croissance des ressources. Alors, la question, c'est comment, par cette fiscalité, créer un véritable encouragement, d'abord très probablement en donnant des avantages à la rénovation thermique plus importants qu'à la construction de neuf qui mécaniquement de toute manière se termine progressivement, et puis également en faisant une réforme fiscale globale pour les collectivités territoriales, appelée de longue date par les différentes associations d'élus, simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de ressources liées à l'impôt sur le revenu, liées à l'impôt sur les sociétés pour les collectivités territoriales, pas même à la TVA, sauf des compensations qui commencent à être mises en œuvre en contrepartie de certaines réformes. Alors, évidemment, on ne peut pas demander à une collectivité qui a un modèle économique comme une entreprise de soutenir l'activité économique avec des charges fixes tout en se coupant de la dynamique de ces ressources. C'est pour ça qu'il faut retrouver un lien entre l'activité économique et les ressources des collectivités, lien qui vient malheureusement d'être supprimé par la suppression de la CVAE.
Allez, je vous propose de terminer avec la traditionnelle dernière question du podcast. Lionel, si tu devais qualifier le cluster montagne en trois mots, lesquels tu choisirais ?
Je dirais rencontre, dynamique et ouverture.
Très bien. Nous conservons. Et de ton côté, Nicolas ?
Je dirais échange, passion et intelligence collective.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas et Lionel, pour ces échanges autour de la prospective.
Merci, Elodie.
Merci, Elodie.
Merci à tous d'avoir suivi ce 5e épisode et rendez-vous dans un mois. N'hésitez pas à partager ce podcast au sein de votre réseau. À bientôt !